Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez AI, un podcast qui ne fait même pas mal, avec sur la mezzanine du poste général Olivier Vigneault, président de BETC Digital.
Bonjour.
Sébastien Oudus, directeur adjoint de la même maison et grand spécialiste de la stratégie digitale.
Bonjour.
Et bien sûr Félix Barès, notre journaliste et donc notre caution morale.
Bonjour.
Le sujet du jour étant
la reconnaissance faciale.
Selon Wikipédia, la reconnaissance de visage est un domaine de la vision par ordinateur consistant à reconnaître automatiquement une personne à partir d'une image de son visage.
Mais tout d'abord, une page de pub.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à votre visage.
J'ai un visage!
Moi aussi j'ai un visage!
Toi aussi tu as un visage!
Avec votre visage, vous pouvez oublier vos titres de transport et même votre passeport.
Avec mon visage, je voyage dans le monde entier.
Avec votre visage, fini les mots de passe et les cartes de paiement.
J'ai payé mon canapé en 3 fois sans frais grâce à mon visage.
Et vous, qu'allez-vous faire avec votre visage? Voulez-vous en savoir plus?
Olivier et Sébastien, vous faites partie de BETC Digital, vous êtes notre partenaire sur cette émission. Est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible?
Alors, c'est pas complètement crédible, parce que là ça va très loin et aujourd'hui la reconnaissance n'est pas à ce point-là parfaite qu'elle permettrait aux gens de se passer de tout papier d'identité par exemple, mais néanmoins c'est un peu la promesse qu'elle nous fait, oui.
Il me semble que les aéroports de Paris ont annoncé que l'an prochain, il y aurait en plus du scan du passeport, la possibilité en fait de débloquer le passage à la douane avec son visage. Donc ça ne veut pas dire qu'on abandonne le passeport, mais ça veut dire qu'en fait on considère le visage comme un passe-droit, parce que la technologie est suffisamment avancée pour se dire que ça suffit à confirmer la sécurité autour du passager en fait.
Vous avez choisi la reconnaissance faciale, pourquoi ?
C'est un terrain de jeu pour créer de nouvelles interactions avec les gens qui est génial. Parce que c'est une façon très fluide et assez inédite quand même, hein, d'interagir avec des objets. Il suffit de se montrer et pouf, il se passe quelque chose. Donc à ce titre, ça nous intéresse parce qu'on pense que c'est une source d'innovation.
La reconnaissance faciale, elle fait en ce moment énormément de progrès. Grâce à Apple, on en a beaucoup parlé dans le monde occidental. Ça fait assez longtemps que ça explose en Chine avec des boîtes qui profitent d'une politique assez ouverte du gouvernement. Et il y a un marché quand même intérieur en Chine de 750 millions d'internautes. Et du coup, quand on a un État qui est velléitaire et qui a envie de pousser ce genre de choses, on a des boîtes comme Face++ ou SenseTime qui sont extrêmement avancées, qui fournissent à peu près toutes les marques du monde et qui sont sur ce sujet de la reconnaissance faciale en fait.
Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses type plus besoin de mot de passe, je scanne mon visage, ça débloque quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres applications?
Il y a une application dont il a été question, dont on s'est pas mal parlé avec Sébastien, parce que c'était une rumeur, mais en fait finalement c'est une rumeur qui n'est pas si loin de ce qui est en train de se préparer. C'était la rumeur selon laquelle chez le grand distributeur Saks à New York, ils utilisaient la reconnaissance faciale pour identifier leurs clients VIP. Donc vraiment c'est de la reconnaissance pure et simple, et pour permettre aux vendeurs de tout de suite, parce que forcément eux ils sont pas censés connaître tous les clients VIP, mais d'avoir une alerte qui leur permette d'identifier ces gens et de les traiter très correctement et bien mieux que le commun des clients. Donc il se trouve que c'est un fake, mais c'est comme toujours, il y a un fond de vérité, et effectivement l'idée que je vais pouvoir accompagner les vendeurs, accompagner les tous ceux qui reçoivent une clientèle en leur permettant de reconnaître plus vite les clients les meilleurs, et puis surtout aussi ce qui les caractérise, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils ont déjà dépensé, etc. Ça, c'est une application qui paraît pas si loin de la réalité. Alors, il y a quand même des... On en a pas mal débattu, parce que est-ce que j'ai envie que mon distributeur préféré connaisse mon visage? Moi, je pense que c'est possible.
Il y a aussi peut-être quelque chose pour les journalistes ou pour les gens qui commentent l'actualité, un événement comme le mariage, un mariage princier ou quelque chose comme ça, qui va peut-être les aider à reconnaître les personnalités dans une foule.
Ouais, alors ça, c'est l'événement effectivement du moment avec le mariage de Harry et Meghan, où Sky News a annoncé qu'ils allaient utiliser un logiciel de reconnaissance faciale produit par Amazon, développé par Amazon, pour reconnaître les invités du mariage royal. Donc ce qui est assez fou, c'est que c'est en live, donc on va voir, il se lance un peu sans filet, donc il y aura peut-être un petit peu de décalage entre le live et pour voir ce que ça donne, mais en gros, ça met au chômage Léon Zitrone, mais en même temps, il est décédé depuis longtemps, mais peut-être Stéphane Bern aussi.
Il s'appelle pas Stéphane Bern.
Stéphane Bern.
Stéphane Bern, né le 14 novembre 1963 à Lyon, est un journaliste, animateur de radio, présentateur de télévision et écrivain franco-luxembourgeois.
Et moi, j'ai du coup, en travaillant l'émission, j'ai vu effectivement beaucoup l'application, et notamment en Chine, à l'entrée des immeubles ou des résidences étudiantes, on te scanne le visage pour te laisser entrer ou pas. Et il y avait une femme qui disait, voilà, je me sens en sécurité parce que je rentre en scannant mon visage. Mais en quoi c'est plus sûr qu'un code à 10 chiffres ?
Bah, un code à 10 chiffres, on peut le récupérer sans être un habitant de l'immeuble. Alors que on peut difficilement, en tout cas pour l'instant, voler le visage de quelqu'un.
Non, mais on peut se mettre derrière toi et te dire, scanne ton visage ou je te fous une balle.
Mais quelle violence, Félix.
C'est pareil avec le code. Hein.
Oui, c'est vrai.
Fais ton code à 10 chiffres,
c'est
pareil.
Bah oui.
Il y a une boîte en Chine dont le métier, c'est de faire de la reconnaissance faciale et qui a mis en place, et ça, j'ai vu la vidéo, dans la société, la reconnaissance faciale à l'entrée de la boîte pour les salariés et qui, du coup, leur pousse des pubs qui correspondent à leur profil. Donc c'est exactement comme dans Minority Report. C'est-à-dire que du coup, il y a un journaliste qui a essayé et puis en gros, ils lui ont poussé une pub d'appareil photo parce qu'ils ont identifié que c'était plus ou moins lui la cible. Et donc, en gros, c'est j'envoie des messages personnalisés. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant ça que le fait que, en fait, ça devient très fluide. C'est-à-dire que
oui,
c'est ça, parce que sinon, en fait, pouvoir identifier les gens et pointer, c'est pareil, on pourrait les reconnaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ça change quand même, c'est que ça rend tout très très comme si c'était très évident, très naturel et qu'il y avait absolument aucune... C'est sans couture le parcours. Hein.
Olivier fait un geste de la main qui évoque un fleuve.
Et on va pas anticiper sur le côté parano parce qu'il y aura ça un peu plus tard dans l'émission, mais ça rend tout très fluide et presque tout invisible. Donc on se rend plus compte quand on pointe ou quand on est reconnu en fait.
Un peu comme dans la pub qu'on a entendue tout à l'heure. Hein.
Effectivement.
Bien. Si on en parle beaucoup en ce moment, la reconnaissance faciale n'est pas du tout une création 10.0, je sais pas quoi, de l'intelligence artificielle. Ça existe depuis très longtemps.
L'incroyable invention de Monsieur Bertillon.
Alors très longtemps, en fait, pas vraiment. Ça existe techniquement depuis le 19e siècle. Mais il faut rappeler une chose fondamentale qu'on n'a pas dit, c'est que la reconnaissance faciale, c'est juste la manière la plus naturelle d'identifier un individu. C'est ce qu'on fait, nous, les êtres humains, tous les jours. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous en regardant le visage et pas autre chose. C'est juste la manière la plus naturelle d'identifier un individu. La question de l'identification par le visage, c'est au 19e siècle qu'elle est apparue pour des raisons judiciaires. Pourquoi ? Parce que le roi Louis-Philippe, a interdit la flétrissure. Avant, on marquait les criminels au fer et le roi a dit « On arrête. Donc comment on fait pour reconnaître un récidiviste maintenant qu'il est plus marqué au fer ? Comment on fait ? On arrête. C'est un problème. En parallèle, la photographie se développe et donc ça donne l'idée à un procureur du roi de créer le casier judiciaire. On prend tous les criminels en photo, en plus de noter ce qu'ils ont fait, et on en fait des dossiers pour éventuellement pouvoir confondre les gens qui se refont prendre par la police. Et le chef du service photographique de la préfecture de Paris, qui reçoit toutes ces photos, à peu près 60 000 photos, à un moment donné, il se dit, bah, il va bien falloir commencer à trier tout ça. Il les regarde, il mesure le nez, les yeux, l'écartement, la longueur des oreilles, la largeur du visage, et ce monsieur qui s'appelle Bertillon se dit,
bah, toutes ces mesures-là, je vais les noter. Ça va devenir un vrai trésor statistique pour pouvoir confondre les gens.
En plus, ça va être beaucoup plus riche qu'une photo, ça va être des mesures.
Ça veut dire que même si la personne se coupe les cheveux ou essaie de changer d'aspect, on va la reconnaître.
Donc c'est critiqué, on dit atteinte aux libertés individuelles déjà à l'époque.
Mais,
en fait, la France et le reste du monde prend le pli de faire du bertillonnage.
C'est ce qu'on appelle le bertillonnage.
Pourquoi ? Bah parce que ça marche.
Le bertillonnage ?
Ça marche.
La reconnaissance faciale fait énormément de progrès. On verra si elle arrive à reconnaître tous les invités du prochain mariage royal. En revanche, la police de Londres a annoncé ce matin que son logiciel de reconnaissance faciale n'avait abouti à l'arrestation d'aucun criminel depuis qu'il était en activité. Qu'en fait, ce logiciel avait reconnu deux personnes, dont une qui n'était plus recherchée et l'autre qui était un peu à côté de la plaque.
Donc, moins bien que Bertillon, on peut le dire.
Mais c'est le même système en fait que Bertillon, mais c'est des machines qui sont derrière.
C'est marrant, ça me frappait parce que c'est exactement le même principe. C'est juste que en fait il est poussé à l'extrême, mais c'est la même idée.
L'intelligence artificielle, c'est la capacité à compiler plus de données que l'être humain et la capacité aussi à se concentrer sur un truc peut-être plus longtemps que nous quoi.
Et alors du coup la limite, si on en a pas parlé, c'est que comme elle est entraînée par des humains, il se trouve que aujourd'hui quand même, sur les pas mal de logiciels de reconnaissance faciale, les hommes blancs sont reconnus avec 1% d'erreur, les femmes blanches sont reconnues avec 7% d'erreur, les hommes noirs avec 12% d'erreur, et les femmes noires, attention, 35% d'erreur. Parce que bah, dans les équipes, il y avait manifestement pas beaucoup de femmes noires.
La reconnaissance faciale, comment ça marche?
Les machines, dans l'intelligence artificielle, elles marchent quand elles sont nourries d'énormément de data. Donc ça marche hyper bien en Chine, ça marche beaucoup sur Facebook parce qu'ils ont un algorithme de reconnaissance faciale et qu'il y a quand même quasiment 2 milliards de personnes sur Facebook, donc ça marche très bien. L'algorithme de Facebook s'appelle DeepFace et il a un taux de reconnaissance de 97%, ce qui est assez énorme. Et après, techniquement, en fait, la reconnaissance faciale, la machine va analyser des points sur votre visage, en fait. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'elle va analyser évidemment beaucoup mieux que vous, c'est-à-dire qu'elle va analyser sur, par exemple, sur Apple et sur l'iPhone 10, elle analyse 30 000 points en utilisant notamment une caméra infrarouge, donc elle fait une photo infrarouge du visage et elle analyse l'écartement des yeux, la distance avec le nez, etc. Et en évidemment un quart de demi-seconde, elle analyse ces 30 000 points bien mieux qu'une personne humaine.
Ces photos, tous ces data en fait.
Et ces data et ces photos, elles viennent de nous, elles viennent des gens.
Potentiellement, mon visage a été utilisé pour faire progresser l'intelligence artificielle.
Mais pas potentiellement, c'est exactement la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que pourquoi Facebook est bon ? Parce qu'ils se sont entraînés, comme l'a dit Sébastien, sur des millions de gens.
Avec mon autorisation.
Et alors, il y a un truc génial qui vient d'être lancé par une association qui s'intéresse aux disparus. Et qui a trouvé, je trouve, un usage assez intéressant de cette reconnaissance faciale et qui, en fait, a créé des profils Facebook avec des photos de disparus, de gens qu'on n'a pas revus depuis, on a perdu la trace depuis plusieurs mois ou années. Et comme, évidemment, ils ont, sur ces profils-là, ils ont autorisé la reconnaissance faciale sur n'importe quelle photo, et ils se disent, en fait, peut-être que là, comme c'est des machines et que c'est un niveau mondial avec une puissance de calcul inégalée, peut-être que ces gens-là, on va les retrouver tagués, on va plutôt reconnaître leur visage, non, ils sont pas tagués, mais on va reconnaître leur visage sur des photos que d'autres gens vont poster dans les semaines, les mois qui viennent, et donc peut-être qu'on va retrouver leurs traces. Je trouve ça assez génial.
Aux émeutes de Londres, en fait...
Les émeutes de 2011 en Angleterre sont une série d'émeutes ayant lieu du 6 août 2011 au 10 août 2011 à Londres et dans d'autres villes anglaises.
2011 already. It seems to me it was yesterday.
Donc il y a des groupes de ce qu'on appelle des vigilantes, qui voulaient se faire justice eux-mêmes et qui, pour identifier les émeutiers qui avaient cassé des choses et qui voulaient donc sur lesquels voulaient se venger, en fait, ils ont utilisé un logiciel apparemment photo qu'Apple avait développé avec de la reconnaissance faciale pour avoir l'identité.
La vraie paranoïa ou le vrai danger peut arriver quand on va pouvoir connecter votre visage à d'autres données. C'est-à-dire que en fait, qu'il y ait des caméras de sécurité qui vous reconnaissent, etc., bon, soit. Mais après, quand on arrive à le connecter à où habite Vincent Malone, avec qui habite Vincent Malone, c'est là où ça peut devenir dangereux et en tout cas, ça peut faire flipper les gens.
C'est un peu ce qui se passe sur le bashing en Chine, là, des gens qui traversent, là.
Ouais, en fait, il y a eu un process d'utilisation de la reconnaissance faciale où, en fait, tous les gens qui traversaient quand le piéton n'était pas vert ou qui traversaient en dehors des passages cloutés, pour les humilier, on a fait en direct live. Donc je reconnais Vincent Malone qui traverse en dehors du passage clouté.
Qu'est-ce que je fais en Chine ? Ça, je ne sais pas.
On ne sait pas ce qu'il fait en Chine, mais il est là. Ouais. Et là, en fait, comme j'ai la connexion entre votre visage et toutes les autres données personnelles qui vous concernent. On peut afficher en temps réel dans un panneau d'affichage qui est juste à côté du passage Clouté, où habite Vincent Malone, et l'humilier publiquement et donner son numéro de sécurité sociale, etc., etc. Donc c'est une utilisation un peu angoissante de la chose, effectivement.
Ils sont pas encore allés jusqu'à afficher le numéro de sécurité.
Ils ont, en l'occurrence, donné l'identité et l'adresse.
Ils donnent l'adresse aussi.
Ouais, ils donnent l'adresse des gens.
Oui, on ne peut pas laisser passer cet exemple terrifiant sans parler de l'exemple PQ.
Oui, en Chine, en face d'un monument historique célèbre, je crois, il y a une attraction, du coup, qui draine les touristes qui y vont. C'est qu'effectivement, il y a des toilettes. Ou pour avoir du papier toilette, 3 feuilles de papier toilette exactement, on est obligé. Alors là, pour le coup, c'est pas que de l'identification faciale, je crois qu'il faut sourire. Mais bon, on passe son visage devant pour être sûr qu'on ne puisse pas en demander 2 fois. Voilà. Et les gens se plaignent parce que 3 feuilles de papier toilette, visiblement, c'est pas assez.
Et après, on sait pas ce qu'ils font de la data avec les visages des gens qui sont allés aux toilettes.
La data s'appelle caca.
Au-delà de la blague du papier toilette, en fait, ça pose toute la question qui, pour nous, et toute la question pour nos marques et pour nos clients et pour les gens, c'est qu'est-ce que je vais vous donner en échange de ce que vous, vous me donnez? C'est-à-dire que là, effectivement, le deal, il est un peu nul parce que il faut que j'offre, entre guillemets, mon visage pour avoir 3 feuilles de papier toilette.
Oui.
C'est une récompense relativement faible.
Cela dit, c'est une récompense faible, mais dont on a besoin.
Mais utile, absolument. Mais je peux me dire que 3 feuilles de papier toilette, c'est pas forcément l'utilité maximale pour ce que j'ai à faire. En revanche, l'exemple qu'évoquait Olivier, si on se dit, j'ai envie d'être reconnu comme un client hyper VIP parce que, on en parlait hier, je voyage par exemple partout dans le monde et je vais dans toutes les boutiques Chanel de tous les aéroports. Il se trouve que je suis pas client Chanel d'une boutique en particulier, mais j'ai envie d'être reconnu à Paris, à New York, à Londres, à Sao Paulo, je ne sais où. Si en fait on utilise la reconnaissance faciale pour m'accueillir en tant que client VIP, bah là le deal il est bien meilleur que juste avoir 3 feuilles de papier toilette en fait.
Juste une question par rapport à tout ce flip parano.
Oui, bah moi mon souci c'est très simple. Un code, si on me le vole, je peux le changer. Un passeport, si je le perds, je peux le faire refaire. Et c'est pareil pour ma carte de paiement, ma carte bleue. Qu'en est-il aujourd'hui du visage, de mon visage? Qu'en est-il si on me le vole?
Il a raison d'avoir peur, monsieur Parano.
Je crois pas. Si j'en crois ce qu'on nous dit sur la reconnaissance du visage par Apple... c'est tellement fiable que c'est considéré comme une donnée qui peut nous permettre d'avoir accès à des informations bancaires. Et on sait quand même que les informations bancaires, c'est partie des choses les plus sécurisées. Donc, il semblerait que c'est un peu comme l'empreinte digitale. C'est-à-dire que on a tous une empreinte digitale unique et on s'est jamais dit « Ah oui, mais alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont la même. » Bah non, c'est comme ça. C'est une donnée physiologique. Et donc, il semblerait que la donnée de l'unicité de notre visage soit quelque chose d'infalsifiable.
Concernant toute cette parano, qui est forcément soulevée quand on parle de reconnaissance faciale, parce que ça va avec, effectivement, mon identité. Les marques, quand vous parlez de ces technologies avec elles, c'est un sujet qui arrive assez vite que vont penser les utilisateurs? Est-ce qu'ils vont pas se sentir comme une intrusion dans leur vie privée?
Alors, les marques, elles ont bien raison de se poser la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore balbutiant sur des usages très grand public. Donc, on n'est pas sur une diffusion massive de cette technologie par des marques, encore chez nous. Mais aujourd'hui, on est quand même dans le contexte du RGPD, c'est-à-dire d'une protection très forte de la donnée personnelle. Donc, de toute façon, aucune marque ne peut envisager d'utiliser une donnée aussi sensible que celle-là sans informer les gens de ce qu'elle va faire de cette donnée, comment elle va l'utiliser, pourquoi, à quelle fin, dans quel contexte. Et donc, de toute façon, il y a une obligation déjà de rassurer les gens qui est légale.
Oui, il y a un cadre un peu strict. Dans en tout cas en France et en Europe.
Donc on peut pas faire n'importe quoi. Et puis après, de toute façon, c'est vrai que c'est une question que on se pose souvent. C'est on a donné énormément de choses aujourd'hui, par exemple à Google.
Oui.
Tous nos parcours, ce qu'on a cherché. Et finalement, quand on interroge les gens, ils disent toujours pareil. Ils disent est-ce que j'ai en contrepartie quelque chose qui est suffisamment intéressant pour justifier ça. Donc si on arrive à trouver des services rendus aux gens qui soient suffisamment intéressants pour que le fait de passer par leur visage soit un vrai facilitateur, probablement qu'ils le feront.
Merci, l'heure tourne, ce serait dommage de manquer notre rendez-vous avec Manon, qui nous démontre que face, print, peut rimer avec culture. Ah oui, oui, j'en suis assez content.
Ce n'est pas en lien direct avec la reconnaissance faciale, mais pas complètement hors sujet, puisqu'il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans caméra, et qu'en Chine, plus de 170 000 caméras de vidéosurveillance quadrillent les allées venues des citoyens. Parmi les milliards d'images enregistrées, nombreux sont en libre accès sur la toile. Ces déchets visuels ont servi de matériau à l'artiste contemporain chinois Xu Bing, qui a fait le pari de monter un film d'1h20 réalisé entièrement à partir de ces images. Ça donne Dragonfly Eyes, traduit « Les yeux des libellules ». Un ovni cinématographique, une performance artistique qui a demandé 2 années de travail et a obtenu le Léopard d'Or 2017 au Festival du film de Locarno en Suisse. Disponible en ligne, le teaser offre l'aperçu d'une expérience angoissante qui pose la question de l'absence de réactions humaines des caméras qui nous présentent sans état d'âme. Catastrophe naturelle, accident de la route, agression, scène voyeuriste, autant d'images du quotidien que l'on se prend en pleine gueule, non seulement sans contexte, mais intégrées désormais à une nouvelle histoire.
Tubin, Pornot Tubin. Olivier, Sébastien, une réaction à ce moment culturel ?
Ça pose effectivement une vraie question. Filmer des choses et ne rien faire, et il ne me semble pas si compliqué que ça d'entraîner une intelligence artificielle à signaler un événement dramatique qu'elle pourrait voir, c'est la comparaison avec l'humain est un peu bizarre, mais qu'elle pourrait voir dans des images en live, puisque en tout cas on sort un tout petit peu de la reconnaissance faciale, mais la reconnaissance d'objets, d'humains, donc de catastrophes en live, elle progresse aussi énormément, donc...
C'est tout le sujet du progrès de l'intelligence artificielle, hein. C'est la capacité à rendre possible ce que l'humain ne peut pas faire, c'est-à-dire surveiller en permanence, traiter en permanence des milliards de données, et donc alerter, par exemple, quand quelque chose, par exemple dans les gares, on est capable aujourd'hui de vendre des systèmes qui sont en mesure d'identifier des bagages abandonnés depuis plus de X minutes. Évidemment, aucun humain n'est capable de faire ça avec ses petits yeux, mais l'intelligence artificielle est capable de le faire. Donc, c'est en ça que c'est un progrès et que, effectivement, on peut utiliser plus intelligemment probablement cette donnée.
La reconnaissance faciale, la reconnaissance du visage, ce n'est qu'un début. La machine peut également, déjà, reconnaître des émotions sur ses visages, mais également l'environnement du visage, de la personne qui porte le visage en tout cas, et en déduire beaucoup de choses.
Donc là, la question se pose, est-ce que vraiment la machine est capable d'analyser une émotion ? C'est plus compliqué que de reconnaître un visage. Et du coup, il y a un exemple assez récent de Microsoft où le logiciel de reconnaissance faciale de Microsoft, il analyse en fait l'émotion d'un gars qui sourit sur une photo et nous dit que en fait, il est 97% joyeux, 0,02% en colère. Donc on se dit oui, en fait, moi j'avais reconnu que le mec sourit, donc il a l'air plutôt heureux. Après, ça m'apporte pas grand-chose pour l'instant.
C'est le terrain de progrès de tous les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. C'est-à-dire, maintenant, on est en train de se dire que, en gros, la reconnaissance, on y arrive plutôt bien. L'étape d'après, c'est l'identification de l'état dans lequel je suis. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que le gros problème des machines, c'est qu'elles ne comprennent rien au contexte des humains.
Voulez-vous en savoir plus ?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.